C'est déjà la dernière heure que nous allons passer ensemble et comme nous vous l'avons proposé, nous désirons terminer cette étude de notre épître aux Éphésiens en ce dimanche après-midi du 15 mars 1987. C'est le chapitre 6 qu'il nous reste à parcourir et qui va, nous en sommes certains, nous orienter vers notre culte d'adoration et de louange qui peut vraiment suivre une telle étude puisque nous avons vu que le premier chapitre commençait vraiment par l'hymne que l'apôtre Paul, au fond, avait dans son cœur alors qu'il était en prison. Nous qui nous disons libres, nous espérons que nous aurons aussi quelques paroles de louange et d'action de grâce dans la liberté du Saint-Esprit, que nous pourrons exalter le Fils devant le Père, justement par cette puissance du Saint-Esprit. Je crois que rien ne peut réjouir autant le cœur du Père que d'entendre des hommes et des femmes sur la terre, présents avant l'an 2000, dire « C'est vrai, ton Fils bien-aimé est devenu notre bien-aimé. » Comme le ciel doit être réjoui de pouvoir entendre les louanges de ceux qui vivent dans cette fin de siècle d'impureté et d'iniquité et qui ont encore sur leurs lèvres des paroles de grâce et de louange. Dieu notre Père, toute cet après-midi, nous la plaçons réellement devant toi. Et nous te demandons que le ciel puisse s'ouvrir et que nous puissions encore entendre ta voix. Et non seulement cela, mais que toutes les principautés, toutes les puissances qui sont dans les lieux célestes puissent apprendre à connaître par le travail que tu fais dans tous nos cœurs l'œuvre merveilleuse de Jésus crucifié, de Jésus ressuscité, de Jésus exalté, de Jésus qui attend de pouvoir venir prendre auprès de lui son épouse. Oh, nous voulons te bénir d'avoir eu cette patience, d'avoir attendu. Nous te remercions de nous avoir sauvés. Mais maintenant, nos cœurs aussi soupirent après ta venue. Et nous voudrions, dans la communion de ton Église universelle, en nous rappelant la mort du Seigneur qui nous a donné la vie, nous voudrions pouvoir te dire, avec tous ceux qui t'aiment, dans quelque dénomination qui se trouve, viens, Seigneur Jésus. Amen. Nous étions donc dans cette portion qui nous parle de la maison, de la famille, et des relations que nous pouvons avoir dans un véritable foyer où il y a une femme, où il y a un mari, la position du mari et de la femme. Nous avons besoin les uns des autres, et dans un mariage, bien entendu, il est question, si Dieu le veut, normalement, qu'il y ait des enfants, un fruit de notre amour. C'est pourquoi je refuserai de demander la bénédiction sur un couple qui vient à moi en me disant, carrément, nous avons décidé de nous marier, mais nous ne voulons pas d'enfants. Aller demander ça ailleurs. Mais nous savons dire non. Et il faut encore qu'il y ait des hommes et des femmes qui sachent dire non. Car si vous vous mariez, vous ne pouvez pas dire à Dieu, voilà ce que nous voulons. Vous acceptez ce que Dieu voudra. Peut-être qu'il ne vous en donnera pas, ça c'est son affaire. C'est lui qui ouvre le sein maternel, c'est lui qui ouvre la matrice, c'est lui qui fait naître. Et la plupart des femmes de la Bible, nous l'avons vu, n'est-ce pas, quand nous lisons l'Écriture, elles ont demandé à Dieu des enfants. Ce n'était pas la pilule qui les intéressait. C'était vraiment d'avoir des enfants. Elles ont supplié Dieu parce qu'elles croyaient que c'était lui qui faisait naître. Alors, il y a donc aussi des enfants. On a vu que le couple, pour être harmonieux, devait être un couple chrétien. Mais, voyez-vous, qui partagent la même foi, mais ça ne suffit pas pour se marier d'avoir la même foi. C'est une grande erreur quand on pense, ben voilà, on a la même foi, on peut se marier. Vous avez la même foi, vous pouvez être frère et sœur, peut-être. Hein. Mais pour le mariage, il faut plus qu'avoir la même foi. Il faut qu'il y ait une correspondance aussi dans l'âme et aussi qu'il y ait quand même un certain attrait physique qui vous attire aussi l'un vers l'autre. Et le Seigneur est un Dieu qui fait bien les choses. Et lui sait quelle est l'aide qui peut nous correspondre et qui peut nous correspondre non seulement aujourd'hui, c'est assez facile, on est jeune, alors on se plaît, mais dans 5 ans, est-ce que nous nous correspondrons encore? Il y aura une évolution qui se sera faite. Alors qui est-ce qui sait ce que nous serons dans 5 ans? C'est le Père. Alors lui ne se trompe pas, puis il sait aussi ce que nous serons dans 10 ans, et puis si nous y arrivons, il sait aussi ce que nous serons dans 50 ans. Et un vrai mariage, il ne se dissout pas. La mort seule peut rompre ce lien, d'une façon normale. Mais hélas, nous le savons, nous sommes dans un monde où de plus en plus on prône le divorce, le mariage a laissé, et même plus le mariage, n'est-ce pas? Avant on appelait ça concubinage, maintenant c'est l'amour libre, et c'est tout ce que vous voulez. Alors, donc, il n'y a plus rien de chrétien. Nous sommes déjà dans l'ère post-chrétienne. Il y a encore des églises, mais on ne vit plus, vraiment, le christianisme. Nous sommes déjà entrés dans l'ère post-chrétienne et il n'y a plus que l'Antichrist qui va paraître et qui trouvera vraiment des gens prêts à le suivre. Nous n'avons plus l'amour de la vérité. On n'a pas l'amour de la vérité pour être sauvé. Alors, on croira à la puissance du mensonge, une énergie d'erreur, une puissance d'erreur surviendra sur les hommes et ils croiront au mensonge. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas connu la vérité, ils ne l'ont pas aimé. Comprenez-vous? Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, ils croiront au mensonge. Alors, que nous soyons de ceux qui aiment la vérité et qui savent justement par cette vérité que nous avons une espérance, que ça ne va pas mal finir pour l'Église, mais que l'Église du Christ, peut-être après des souffrances encore, qui va nous unir, qui vont nous unir davantage les uns aux autres, le Christ la prendra auprès de lui, car il se réjouit d'avoir son épouse à ses côtés. Et vous, vous réjouissez-vous de cela? C'est pas la mort que nous attendons. Nous attendons Jésus, qui nous délivre de quoi? De la colère à venir. La colère, elle vient sur le monde. C'est clair. Le jugement, il vient sur le monde. C'est bientôt la moisson. Le monde mûrit pour la moisson. Et quelle moisson? Mais nous attendons Jésus qui nous délivre de cette colère. De l'heure de la tentation qui va venir sur la terre habitée tout entière. Nous n'avons pas à vous prêcher des choses heureuses au sujet de ce monde. Le monde n'ira pas en s'améliorant, ce n'est pas vrai. Et l'évangélisation du monde, elle ne transforme pas le monde, elle ampute le monde de certaines âmes qui deviennent membres du corps de Christ. Et ce corps de Christ va être réuni à la tête, de sorte que quand le Christ reviendra, c'est le Christ total qui sera manifesté au monde, tête et corps, dans son unité merveilleuse. Alors, pour que la tête et le corps soient réunis, il faut d'abord qu'il enlève le corps. Nous attendons donc cet enlèvement. Et quand il sera vu alors dans le monde, il sera admiré dans les saints et glorifié en tous ceux qui auront cru. On verra cette unité merveilleuse que le Seigneur aura faite. Et lui pourra jouir du fruit du travail de son âme, comme l'a prophétisé Ésaïe, et en être satisfait. Alors, puisque maintenant nous connaissons les pensées de Dieu au sujet du mariage, s'il est question maintenant du mariage, eh bien nous désirons nous conformer à l'Écriture sainte. Et voyez-vous, dans le couple vraiment chrétien, eh bien c'est une complémentarité réciproque. Nous sommes complémentaires. L'homme, la femme sont ensemble soumis au Seigneur. Il n'est pas question qu'il y en a un qui soit plus que l'autre, mais il y a un ordre qui est un ordre divin, et nous nous soumettons à cette hiérarchie, simplement. Parce que nous suivons le Christ. Et nous connaissons maintenant le plan de Dieu, nous savons que Dieu a un plan, que tout a été précis, à quoi nous avons été prédestinés. Alors, cette soumission de la femme, comme aussi l'amour du mari, eh bien, nous savons que c'est dans la pensée de Dieu. Alors maintenant, les enfants. Il y a les enfants qui peuvent naître. Ce sont les enfants que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas le fruit d'un accident. C'est pas un accident, un enfant. Mais c'est le fruit de l'amour. Et puis, si Dieu nous donne un enfant, il va nous donner de quoi nourrir. Ça, vous pouvez en être certain. Mais nous n'avons plus la foi. On dit, oh, pas d'enfant maintenant, hein. La vie est trop dure. Elle a toujours été dure, la vie. Mais le Seigneur a toujours donné. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Nous avons à vivre au jour le jour. Et si Dieu nous donne un enfant... J'aime tellement cette expression de Jacob, quand Ésaü voit tous les enfants qu'il a, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. C'est merveilleux, hein? Je ne vous dis pas d'imiter Jacob avec ses quatre femmes, mais enfin, les enfants qui sont là, il dit, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. Un enfant, c'est un don de Dieu. Et alors, on l'aime, on l'attend, si Dieu nous le donne. Mais une fois qu'on a un enfant, bien, il faut savoir l'élever. Et comment est-ce qu'on va l'élever, notre enfant? Selon les théories du monde actuel, selon les théories de certains Américains, d'éducateurs d'aujourd'hui, les éducateurs d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Selon la psychologie du jour, non. Enfant. Et il y a un message pour eux. Dieu s'adresse pas seulement aux pères, Dieu s'adresse pas seulement aux mères, mais il a aussi un message aux enfants. Et vous savez qu'il parle aux enfants. C'est pour ça que nous avons tant de joie quand nous faisons un camp de famille, de pouvoir parler aux enfants. Dieu parle aux enfants. Vous vous souvenez de l'histoire de Samuel? Dieu a parlé non pas au vieil Élie, le sacrificateur, il a parlé à un tout jeune enfant, mais qui avait eu une mère, qui avait su l'enseigner avant qu'il soit placé au temple. Alors, Dieu parle aux enfants. Enfants, et qu'est-ce qu'il dit? Obéissez à vos parents, mais comment? Selon le Seigneur. Si les parents demandaient à leurs enfants de faire des choses mauvaises, les enfants aussi pourraient dire non. Il n'est pas question là d'une obéissance servile. C'est selon le Seigneur, mais vous devez comprendre qu'un enfant peut avoir affaire avec le Seigneur. Et je me souviens toujours de ce pasteur qui, pensant qu'il avait reçu le Saint-Esprit mieux que les autres, disait « J'ai plus besoin de la Bible, j'ai le Saint-Esprit. Dieu me parle lui-même. » Et il avait fermé sa Bible, il me l'a dit lui-même. Et un jour, dans son bureau, alors qu'il ne lisait plus sa Bible, mais qu'il prêchait les visions qu'il avait, enfin toutes espèces de choses, son petit enfant est venu vers lui, ça se passait près du lac Léman, et il lui a dit, « Papa, n'oublie pas le petit livre. » Ben, vous savez, hein. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux, ça? Oui, et je le connais, cet ami, qui me l'a confessé. Dieu a employé son enfant pour le remettre
sur place. Parce que on peut toujours dire le Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole. Ne séparez jamais la parole du Saint-Esprit. Si vous voulez des songes, eh bien, allez avec vos songes. Allez avec vos visions. Mais nous, ce que nous voulons, c'est le froment. Si vous préférez la paille, prenez la paille. Mais vos songes, qu'est-ce qu'ils sont? De la paille, bien souvent. Et puis vous devez les interpréter. Et alors, vous risquez encore de vous tromper dans vos interprétations des songes. Tandis que la parole, elle est là. Elle est claire. Et je sais que ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur est authentique. Parce que c'est conforme à l'Écriture sainte. Et c'est un conseil que je vous donne. Ne vous laissez pas influencer en disant « Le Saint-Esprit me conduit ». Parce que, comme disait le docteur de Benoît, qui était un vieil ami pour moi, « Pauvre Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on t'en met sur le dos ?» Et c'est vrai, hein, le Saint-Esprit, il a bon dos. Alors, attention, gardons-nous de cela. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. » Il est dit « Cela est... » Et vous savez, les enfants, ils ont le sens de la justice. Et même si on a dû les corriger, bien souvent, ils viennent ensuite nous remercier. C'est fantastique. Si un père sait être un père, et devant le Seigneur, et une mère, une vraie mère, eh bien, l'éducation sera faite. Et le verset 2, et c'est une citation d'un des commandements du Seigneur, de la loi, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Honorer son père et sa mère. Il n'est pas dit quel père et quelle mère. Mais ton père et ta mère ont droit à être honorés. Mais évidemment, pour que nos enfants honorent leur père et leur mère, il faut que les parents aient une conduite honorable. Mais comment voulez-vous qu'on honore un père ou une mère qui sont infidèles, qui couraillent d'un côté ou d'un autre? Les enfants voient cela, et ça les scandalise. Je me souviens dans les petites disputes familiales qui pouvaient surgir entre mon père et ma mère, la souffrance que j'avais dans mon cœur, parce que même dans un ménage chrétien, il y a des moments difficiles. Mais l'enfant ressent cela, l'enfant souffre de cela, il ne peut pas supporter de voir dans un foyer, justement, ces disputes. Et nous sommes tellement humains, tellement charnels, et on a une parole qui est peut-être blessante, et donc nous devons nous humilier parce que nos enfants nous regardent. Ils nous voient. Et voyez-vous, si vous voulez que vos enfants aiment le Seigneur, aimez vous-même le Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'une jeune fille devrait désirer un compagnon qui aime le Seigneur? Mais c'est justement en pensant que peut-être il y aura aussi un enfant. Et il faut qu'on soit vraiment unis dans cet amour pour le Seigneur. Que nos enfants puissent nous honorer, et alors il y aura une promesse. Cette promesse, c'est afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le premier commandement vraiment avec une promesse. Et quand vous êtes converti, on aurait dû tout de suite vous aiguiller sur ce point-là. Vous avez un père et une mère. Peu importe la connaissance qu'ils peuvent avoir, c'est votre père et c'est votre mère. Ils vous ont quand même reçu, ils ont pris soin de vous, et peut-être que vous n'avez pas toujours été ce que vous deviez être à leur égard. Alors, le fruit d'une conversion, c'est d'aller demander pardon à papa et à maman. Pas vouloir enseigner papa et maman. Pas vouloir leur dire, voilà ce que vous devez faire, ou les lacunes que vous avez eues. Ils ne pouvaient pas vous donner davantage. Ils vous ont donné ce qu'ils avaient. Eh bien, reconnaissez-le. Et vous serez heureux. Il y a vraiment un bonheur dans ce respect que l'on doit avoir pour un père et une mère, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Parce que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un incrédule, qu'un infidèle. Et alors, maintenant, les pères, eh bien, ils sont aussi exhortés. Et vous, pères, vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas parlé de la mère? Mais parce que la mère, ben, on sait qu'elle va s'occuper de son enfant quand il est petit. Mais il ne faut pas que le père dise, oh, ben, ça c'est le travail de la mère. Non, Dieu s'adresse justement au père parce que c'est trop facile de se décharger sur la mère. Mais vous, père, tu dois penser à tes responsabilités. Vous, père, n'irritez pas vos enfants. C'est tellement facile aussi d'irriter ses enfants. On a des caprices à l'égard de nos enfants. Nous devons vraiment nous dire, mais qu'est-ce que tu veux, oh Dieu, pour mon enfant? Qu'est-ce qui peut l'aider à grandir dans ta connaissance? Alors, veillons à ne pas irriter nos enfants, à ne pas les agacer même, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, les parents doivent vivre tellement près du Seigneur pour que leurs enfants voient dans les parents l'expression de la volonté de Dieu. Puis il y a dans ces maisons-là, spécialement du temps de Saint Paul, il y avait des serviteurs. Et alors il n'a pas prêché la révolte des esclaves. Un jour l'esclavage serait aboli. Mais jusqu'à ce que cela vienne, eh bien, dans la condition d'esclave, parce que la plupart des premiers chrétiens païens étaient des esclaves. C'est eux qui ont reçu l'évangile. Alors, il y avait beaucoup d'esclaves convertis. Alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire? La révolution? Non. Esclave, puisque tu es sauvé, eh bien, tu vas être dans le Seigneur. Et ton travail, tu vas le faire dans la soumission à ton maître, selon la chair, avec crainte et tremblement, c'est-à-dire comme si tu es devant le Seigneur. Dans la simplicité de votre cœur, toujours comme à Christ, souligné dans cette épître les « comme », hein, comme au Père, comme au Seigneur, comme à Christ. C'est toujours le Christ qui est notre exemple. Non seulement sous leurs yeux, hein, ça c'est un verset qui nous frappe. Quand ma grand-mère me disait, quand je devais balayer les escaliers une fois par semaine, chacun avait sa semaine, hein, mais tu sais, le Seigneur y voit dans les coins. Parce que, bon, elle nous demandait, est-ce que tu as vraiment fait toutes les marches? Je me disais, ben, pour faire toutes les marches, on les touche comme ça. Tu as été dans les coins? Le Seigneur voit dans les coins. Alors, on est sous le regard du Seigneur. Alors, on fait les choses autrement. Parce qu'on dit, oui, la grand-mère, elle voit rien, mais le Seigneur, il a vu. Alors, je ne peux pas mentir. C'est ça, l'éducation. Et vous savez, ça vous reste, ça vous marque. Comme aussi quand on nous apprend à faire notre lit. La grand-mère disait, tu sais, le Seigneur, il n'a rien laissé en désordre quand il est sorti du sépulcre. Les linges étaient pliés. Mais c'est ces petites choses. Mais c'est ça, ils sont imprégnés de l'Écriture, puis ils nous imprègnent de l'Écriture. Et quand je l'ai dit à un père de Jérusalem, ça, il l'a raconté plusieurs fois. C'est un grand guide, il est auprès du Seigneur maintenant. Mais il a employé plusieurs fois cette image quand il était au tombeau. Et il leur racontait ça quand ses amis lui avaient dit que la grand-mère avait souligné que le Seigneur n'était pas sorti avec précipitation. Il n'est pas sorti avec précipitation du tombeau. Tout était en ordre. Alors, mes bien-aimés, laissons-nous enseigner et ayant toujours le Christ devant les yeux, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, hein, c'est pas la flatterie, mais comme serviteur de Christ. Si vous faites cela, c'est pour le Christ. Et puis, il faut faire les choses de bon cœur. Pour le Christ, c'est de bon cœur que l'on fait la volonté de Dieu. Alors, au lieu de parler des serviteurs, vous pourriez parler des ouvriers. Votre condition est celle de l'ouvrier. Eh bien, au lieu de vouloir pousser dans cette question de la lutte des classes, vous vous attendez au Seigneur. Je suis un ouvrier. Eh bien, je veux dépendre de toi, Seigneur. Tu sais que je suis un ouvrier. Tu sais ce dont j'ai besoin. Tu peux aussi faire des miracles, là aussi. Puis, servez-les avec empressement, nos patrons, comme servant du Seigneur et non les hommes. Ne plus voir les hommes, parce qu'ils sont détestables bien souvent. Et c'est vrai. Mais au lieu de voir les hommes du tout, au-dessus d'eux, il y a le Seigneur. Alors, ça change complètement l'atmosphère. Sachant, verset 8, que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait de bien. Selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous alors, les maîtres, patrons, agissez de même à leur égard, à l'égard des ouvriers. Vous voyez, les relations, un patron chrétien, il devrait être un modèle, il devrait être un exemple. Plutôt que de faire un grand don à l'église parce que ça fait bien, il devrait bien payer ses ouvriers. Mais je me souviens, il y a 40 ans que j'ai dit ça une fois dans une église. Je me suis fait ramasser, on a dit que j'étais communiste. Mais c'était pas vrai. Que j'avais fait de la politique. Non, mais dans des patrons chrétiens, et il y a des patrons chrétiens, mais justement, alors on compte sur eux pour financer l'église. Et puis, ils ont bien souvent des salaires de famine pour leurs ouvriers. Mais ce qui plaira d'abord au Seigneur, c'est qu'ils donnent davantage à l'ouvrier. Il n'y aurait plus pas eu les syndicats s'il y avait eu la justice. Comprenez-vous ? Toutes ces choses montent parce qu'on n'a pas été ce qu'on devait être. On était tous baptisés, mais on n'a pas vécu réellement notre baptême dans la pratique de tous les jours. Alors, on a tous ces ennuis aujourd'hui. Mais vous, les maîtres, agissez de même à leur égard, à l'égard de vos ouvriers. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne, il n'y a point de favoritisme. C'est cela qui est fantastique. Alors, les relations entre patron et ouvrier pourraient être complètement transformées si le patron est chrétien, et qu'au lieu de voir son ouvrier, il voit dans son ouvrier qui ? Le Seigneur. Alors, il traitera son ouvrier comme si c'était le Seigneur. Le patron voit, chrétien, voit dans son ouvrier le Seigneur, et l'ouvrier voit dans son patron, non plus son patron, l'homme, mais il voit le Seigneur. Alors, les relations sont transformées. Et alors, nous arrivons à la fin. Alors, au reste, quand vous avez compris que, au fond, tout ce que nous avons lu de la doctrine de cet épître doit s'incarner en nous, parce que Jésus, justement, ce qui faisait sa force, c'est que sa doctrine, c'était sa vie. Sa vie, c'était sa doctrine, et sa doctrine, c'était sa vie. Il vivait ce qu'il disait, et à la fin de son existence, il a pu dire, « Qui d'entre vous me convainc de péché ?» Et tous avaient la bouche fermée. Alors, maintenant, mes frères, nous allons nous quitter. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, nous allons nous fortifier. Dans qui ? Dans le Seigneur. Et par quelle force ? Par sa force toute-puissante. Et vous allez vous souvenir de ce que cette force toute-puissante a fait, on l'a lu dans le premier chapitre, cette force toute-puissante l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, on ne peut pas être dans un état pire que la mort. Hein. On ne s'en sort pas une fois mort. Hein. Eh bien, il y a une puissance qui peut nous faire sortir de la mort. Et c'est cette puissance que vous devez connaître. C'est à cette puissance que vous devez croire. Et pourquoi est-ce qu'on doit se fortifier ? Parce qu'on est encore dans le monde. Puis le monde, il a pour prince le diable, qui ne nous aime pas. L'accusateur, celui qui voudrait nous faire tomber. Mais le Seigneur qui nous a laissés dans le monde, qui ne nous prend pas immédiatement le jour de notre conversion, mais qui nous laisse ici-bas pour un témoignage, ne nous laisse pas tout nus. Hein? On est de la chair nue. Nus, nous sortons du sein maternel. Mais quand on est né de nouveau, nous ne sommes pas nus. Quand on est né de Dieu, on vient d'en haut, on est né d'en haut, et il nous envoie sur la terre tout équipé. Avec quelle armure ? L'armure de Dieu, un nouveau-né en Christ, eh bien, il est couvert de l'armure complète de Dieu. Je suis charnellement entré nu dans ce monde, mais quand je nais à la vie spirituelle, je suis équipé. Et je suis revêtu de quelle armure ? L'armure même de Dieu. Je tiens cette armure de Dieu, je suis né de Dieu, vous êtes né d'en haut, vous êtes né de Dieu, et il y a un arsenal là-haut, qui est plus avancé que celui des Russes et des Américains. Alors revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, ou de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable, parce que vous aurez affaire à Satan. Et Satan, vous savez, il sait s'y prendre. Il ne va pas se montrer tel qu'il est. Il va essayer de vous prendre de biais. Il va essayer de vous faire tomber. Il est rusé, vous connaissez. C'est vraiment le serpent sous les fleurs, hein, qui vient là. Et puis il peut se déguiser même en ange de lumière. Alors, il faut être sur nos gardes contre les ruses du diable, parce qu'il a, toutes sortes de ruses. Quelquefois, c'est le lion rugissant, mais ce n'est pas lui que nous avons tellement à craindre. Dans les temps de persécution où Satan veut écraser les croyants, il y a toujours un réveil. Tandis que c'est dans les temps faciles, dans les temps de prospérité, nous sommes souvent le plus tentés et que nous pouvons vraiment nous laisser aller. Et c'est tout ce que le diable voudrait faire. Mais il n'y a pas de mal à cela. Il y a tant de chrétiens qui font cela. Et vous commencez à regarder aux chrétiens, à ce que les autres font, à ce qui se fait dans cette église. Mais ça se fait dans cette église, pourquoi ça ne pourrait pas se faire dans la nôtre? Et on est des imitateurs. Je dis quelquefois, on est vraiment comme si on était sur la planète des singes. On veut singer les autres, tout ce qui se fait chez les autres. Voilà, ça nous plaît. Vous n'êtes pas des singes, imitateurs de Dieu. Vous savez que les hommes vous disent que vous descendez du singe. Bon, laissez-les. Mais vous, vous descendez de qui? De votre Père des cieux. Vous êtes né d'en haut. Tandis que l'homme, il retourne à la bête et il va bientôt adorer la bête et son image. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes. Ce n'est pas une guerre contre des hommes de chair et de sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Parce qu'il y a Satan et toutes ses puissances démoniaques, ceux qui l'ont suivi dans sa révolte. Et ce sont des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans ce ciel atmosphérique. Ils nous entourent. Ils sont invisibles, mais leurs manifestations sont bien visibles. Et ils rendent les hommes esclaves du péché. Et quand le diable se rend compte qu'il a perdu l'un des siens, qui s'est converti au Seigneur, avant il vous laissait la paix. Vous étiez à lui. Alors, c'est pour ça que Job, dans les livres de Job, il est dit que Satan court ça et là, sur la terre, et qu'il se promène. Vis-à-vis du monde qui vit dans le péché, il court. Ils sont bien occupés. Alors, il les laisse tranquilles. Il ne les éprouve pas tellement. Mais quand il voit un vrai chrétien, il rôde. Il rôdait autour de la maison de Job. Il regardait à travers la haie de protection qu'avait Job pour voir comment il pourrait le faire tomber. Parce que Dieu lui dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y en a pas un comme lui, par ses droits craignant de sortir du mal. Tu as attendu, vous, c'est pas pour rien qu'il te craint, tu l'as béni. Enlève-lui la bénédiction et tu verras qu'il va te maudire en face. Et c'est ça, Satan. Il va permettre l'épreuve. Comment supporterez-vous l'épreuve? Estimez-le comme un sujet de parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, à diverses épreuves, parce que l'épreuve produit la patience, et nous avons besoin de patience. Dieu est en train de nous former. Alors bénissons Dieu aussi pour nos épreuves, parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Mais pour pouvoir résister contre les ruses du diable, il faut qu'on ait une armure complète. Alors, verset 13, vous connaissez bien ces passages, je n'ai pas besoin d'insister. Nous avons la liste de sept armes de Dieu. Il y en a cinq qui sont des armes défensive et deux qui sont des armes offensives. Et si vous êtes revêtu de cette armure complète, eh bien vous pourrez résister à Satan dans les mauvais jours et vous pourrez tenir ferme après avoir été écrasé, après avoir tout surmonté. Voilà le texte biblique. Après avoir tout surmonté, il sera question encore de tenir ferme, parce que le diable ne se prend pas pour battu. Alors, quelles sont ces armures?
Eh bien, ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
On a vu que quand on est dans l'amour, eh bien, on a la vérité pour ceinture. Ça, c'est les habits des Romains, du soldat romain. Il avait la ceinture autour de ses reins.
Eh bien, la ceinture de la vérité, les reins, c'est la partie la plus cachée de notre être, la plus reculée. Et il faut que réellement nous ayons la vérité au fond de notre cœur et au fond de nos reins. Que nos mobiles soient toujours la vérité, pas de mensonge. La vérité pour ceinture. Et revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Quelle est cette justice? La nôtre? Non, la justice du Christ. C'est une véritable cuirasse. Je suis caché en Christ. Je suis en Christ comme dans une cuirasse. Il est dit, revêtez le Christ. Revêtez-vous du Christ. Ne prenez pas soin de la chair. Restez dans le Christ. Alors, vous aurez cette cuirasse. Parce que le diable va attaquer. Et la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, voyez-vous, tout cela, c'est un état d'âme. Veillez sur votre état d'âme. Un état d'âme, la vérité dans l'homme intérieur. Cela donne une bonne conscience, et c'est cela, cette cuirasse de la justice. On a une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Ce qui est lamentable aujourd'hui, c'est que la maladie des chrétiens, c'est la mauvaise conscience. Alors ils font des dépressions. Parce qu'on a mauvaise conscience. Et pourquoi est-ce qu'on a mauvaise conscience? Parce qu'on n'a pas appliqué la vérité dans tel ou tel domaine. Et maintenant, on a mauvaise conscience. Alors, il faut confesser cela. Alors, nous avons une bonne conscience parce que nous suivons la vérité. Puis, alors, nous avons maintenant des chaussures, la troisième partie. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Oh, qu'ils sont beaux, dit l'Écriture. Sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent la paix. Ayez ce zèle, non pas ce zèle amer que certains témoins de Jéhovah ont. Ils veulent vous convertir à tout prix, mettre le pied dans la porte, n'est-ce pas, pour vous discuter avec vous. Et ce n'est pas la paix qu'ils vous apportent, mais que vous puissiez apporter vraiment la paix, la bonne nouvelle de la paix. Ayez vos pieds chaussés de ce zèle que donne l'évangile de paix. Ce n'est pas un zèle amer. C'est saisir l'occasion, c'est dire au Seigneur, si tu veux employer ma langue, eh bien, dis quelques mots parce que moi, je ne sais pas parler. Moi, je risquerais de dire quelque chose de faux. Alors, emploie ma langue. Je te laisse ma langue. Je te laisse mes mains. Je te laisse mon regard. Donne-moi d'avoir un regard qui puisse encourager quelqu'un. Et alors, donne-moi ce zèle que là où je vais, je n'apporte pas le trouble. Et c'est ça qui est lamentable. Il y a tant de chrétiens qui ne font qu'apporter du trouble. Dès qu'ils vont dans une église, ils apportent le trouble. Parce qu'ils s'apportent eux-mêmes. Hein? C'est vrai ou c'est faux? Au lieu d'apporter qui? Le Seigneur. Et ça serait édifiant. Apportez le Seigneur. Mais n'apportez pas du trouble. Parce que dès que vous serez dans cette église, vous commencerez, il y aura des troubles. Alors, prenez aussi par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Alors ça, c'est encore une arme défensive. Parce que le diable a des flèches, et des flèches enflammées, des dards enflammés du malin. Alors, vous avez le bouclier de la foi. Et quand Satan vous lance une flèche, la flèche du doute, on pourrait mettre toutes sortes de noms à ces flèches, hein, la flèche de l'impureté, la flèche de ceci, la flèche de cela, vous dites non. Et le dard vient s'éteindre contre le bouclier de la foi. Vous avez cette foi qui est en activité. Alors le bouclier, on peut le mettre à droite, à gauche, là d'où vient le danger, mais il faut l'avoir en main, le bouclier. Parce que si vous l'avez laissé dans la chambre, eh bien, vous allez le retrouver ce soir, mais en attendant, vous allez être blessé. Il faut l'avoir avec nous, constamment. Une foi active et qui sait résister au diable, c'est croire les promesses de Dieu. Satan me dit, tu vois bien ce que tu es. Oui, oui, je suis cela, mais maintenant je suis en Dieu. Et alors je crois Dieu. Le diable me dit, Dieu t'a abandonné. Et qu'est-ce que le Seigneur me dit? La foi me dit, ce n'est pas volontiers que j'afflige et que je contrisse les fils des hommes. Si j'afflige, j'ai aussi compassion. C'est la foi, c'est reprendre une promesse de Dieu. Quand le diable vient vous mettre un doute, il dit non,
tu ne veux pas que je doute de ton amour. Alors, c'est comme ça qu'on mène le combat. Et puis aussi, prenez le casque du salut. Parce que nos pensées aussi doivent être abritées, parce qu'il y a tant de pensées qui nous viennent. Alors que nous ayons ce casque du salut. Je sais que ce salut est complet. Je sais que ce salut est parfait. Il ne m'a pas sauvé à moitié, il ne m'a pas sauvé aux trois quarts. L'Écriture nous dit qu'il nous a sauvés entièrement, qu'il peut nous sauver entièrement, et que l'œuvre qu'il a commencée, il va l'achever d'une façon parfaite. Alors c'est là ce casque du salut dont parle aussi l'Épître aux Philippiens, les cinq armes donc défensives, et maintenant alors vous avez les armes offensives, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Bien que vous sachiez manier l'épée de l'Esprit, que vous puissiez l'avoir en main, et puis la septième de ces armes, c'est la prière, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit, vous voyez, par l'Esprit, pas n'importe quelle prière, mais des prières par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et les faire en tout temps, mais vous allez dire, mais moi je ne vais pas commencer de marmotter des prières pendant toute la journée, mais faire des prières, c'est avoir une vie ouverte à Dieu, prier sans cesse, c'est vivre sous un ciel ouvert. C'est une pensée qui monte vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi dans cette situation, inspire-moi. Ce n'est pas des longues prières, une vie ouverte à Dieu. On ne fait rien sans son conseil. Et cela aussi dans les petites choses, pas seulement dans les grandes. Et alors nous voyons le Seigneur nous aider dans sa grâce et dans sa bonté. Et nous pouvons parler de prière exaucée. Et veillez à cela avec une entière persévérance. C'est cela, prier sans cesse. Et prier pour tous les saints. Alors, ce n'est pas notre petit groupe seulement. Oui, il faut commencer par le petit groupe. Mais élargissez vos cœurs. Faites entrer dans vos cœurs tous les saints, où qu'ils se trouvent. Le Seigneur les connaît. Et il connaît leurs besoins. Ayez une pensée pour eux. Vous vous sentirez moins solitaire. Puis priez aussi pour moi, dit l'apôtre. Il est en prison. Et il ne demande pas, priez pour moi pour que ma santé se maintienne. Priez pour moi pour que je ne souffre pas trop de l'humidité du cachot. Non. Priez pour moi pour que, quand j'ouvre ma bouche, me parle, c'est un grand apôtre. Pourquoi est-ce qu'il demande encore que, quand il ouvre la bouche, eh bien, il dise des choses belles. Parce qu'on est toujours en danger. J'ai besoin du Seigneur tous les jours, parce que de ma bouche peut sortir le doux et la mer. Ah, quelle fontaine. Alors, faisons attention, j'ai besoin des prières des saints. Priez pour moi pour que quand j'ouvre la bouche, eh bien, je puisse faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, c'est-à-dire le secret de Dieu. Cet Évangile, c'est une bonne nouvelle que Dieu veut sauver tous les hommes et qu'il y a pardon aussi pour tous les hommes et qu'on puisse en parler hardiment ou avec assurance. C'est pas peut-être, hein, mais nous avons une assurance, nous avons une conviction et il y a une manière de parler qui doit nous caractériser, que ce soit celle du Seigneur. Et alors, c'est la fin. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne et ce que je fais, Tychique, qui était un de ses compagnons d'œuvre, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur. Vous voyez que Paul sait reconnaître les qualités des autres, même de ceux qui lui seraient inférieurs. Paul était l'apôtre. Tychique était un ministre du Seigneur, mais il sait le recommander et il témoigne qu'il l'envoie pour que Tychique puisse les rassurer à son sujet et consoler leur cœur. Et alors les versets 23 et 24, « Que la paix et l'amour avec la foi. » Que c'est beau. Il a commencé en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Puis maintenant il termine, «
que la paix. On en a toujours besoin de la paix. Et l'amour, parce que on a besoin d'un amour sans cesse renouvelé, vous soit donné avec la foi. Une foi qui grandit. Parce qu'il y a une foi qui est petite d'abord. Et les disciples le savaient. Ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Puis le Seigneur parle d'une grande foi en parlant d'un païen. Je n'ai jamais vu en Israël une si grande foi. Il reconnaît la foi d'un païen. Alors que nous disons oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. Il faut reconnaître ce qui est juste chez les autres. Que cela vous soit donné et soit donné aux frères de quelle part? De la part du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez la Trinité toute entière. On prie par l'Esprit. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qui sont unis ensemble dans l'œuvre de notre salut. Que la grâce soit avec vous tous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, d'un amour incorruptible, d'une autre traduction. Oui, d'un amour vraiment parfait. Lui nous a aimés d'un amour parfait. Eh bien, que nous puissions vraiment l'aimer d'un amour inaltérable. Alors, dans mon petit questionnaire que vous conserverez, que vous aurez avec vous, j'avais suggéré quelques questions au sujet de ce chapitre cinquième. Je vous demandais de qui devez-vous devenir les imitateurs. Ben, vous le savez, c'est de Dieu. De quel péché devons-nous être gardés? Bien, en parole, en pensée, en acte. Du péché par omission, du péché par manque de conviction. De quoi avons-nous besoin d'être remplis? De vin? Non, du Saint-Esprit, n'est-ce pas, de l'Esprit. Puis 4, quelle est l'influence du Saint-Esprit dans nos vies? C'est la louange. C'est ce que nous voudrions voir, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons nous abandonner à la louange, soit par un cantique. Mais ne devenez pas ces indicateurs de cantique, là, parce que vous voulez absolument qu'on chante votre cantique préféré, mais un cantique qui correspond à telle action de grâce, à telle prière. On ne fait pas du remplissage, comprenez-vous? Hein? Et puis, il faut penser aux paroles que l'on chante, aux paroles que l'on exprime. Puis, il faut savoir aussi avoir un moment de silence devant Dieu, pour que ce soit vraiment lui et qui agisse par son esprit. Maintenant, j'avais demandé l'enseignement de Paul sur la famille chrétienne. Est-il valable pour nos jours? C'est à vous de répondre. Hein? Oui, non? L'amour du mari, est-ce qu'on doit aimer sa femme? Est-ce qu'on doit être soumis à sa femme? Ou la femme doit être soumise aussi à son mari? Vous savez, tout ça c'est réciproque. De quelle relation un vrai couple doit-il devenir l'exemple? De Christ et de l'Église. Vous comprenez, ça devient du pratique. Vous avez maintenant une vision. Alors, qu'avez-vous appris de plus dans ce chapitre au sujet du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Là, vous pouvez répondre. Et le dimanche après-midi, pourquoi les premiers versets de ce chapitre nous font penser que nous sommes dans les derniers jours? Ben parce que dans l'Épître à Timothée, il est dit que dans les derniers jours, les enfants seront désobéissants à leurs parents. C'est une des caractéristiques des mauvais jours, des derniers jours. Les enfants ne veulent plus se soumettre à leurs parents. Mais peut-être aussi que les parents ne sont pas ce qu'ils devraient être. Et alors, dans les versets 5 à 9, quelle solution Paul donne-t-il à la lutte des classes, aux ouvriers, nous venons de le voir, aux patrons, comment nous devons agir? Et puis, quelles armes possédons-nous pour mener notre combat spirituel? On en a vu 7, c'est l'armure complète de Dieu. 5, qui sont des armes défensives et qui correspondent à ce merveilleux verset du chapitre 15 de Jean, où il est dit, demeurez en moi. Hein? Ça, c'est les armes défensives. Si je demeure en lui, je suis couvert de la cuirasse de la justice, j'ai la ceinture de vérité, j'ai le casque du salut. Et le bouclier de la foi. Et alors, si je demeure en lui, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Alors, ça c'est les armes offensives. C'est lui qui mène le combat. Si vous demeurez en moi, si vous restez en moi dans toutes vos situations, moi, j'irai.
Moi, je demeurerai en vous. Et c'est moi qui ai vaincu le diable. Et le diable ne rencontrera pas le pauvre Gaston Racine, mais il rencontrera Jésus. Il rencontrera son vainqueur. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Alors, dans la dernière page, vous avez peut-être été surpris que j'ai pris ce temps-là. Quels sont les noms donnés à Satan dans cet épître? Eh bien, il est appelé le mauvais, il est appelé le diable, il est appelé le prince du monde, le prince de l'autorité de l'air, de cette atmosphère que nous respirons, vous pouvez retrouver tout cela. Mais quels sont les mots qui reviennent le plus souvent dans cet épître? Alors j'ai mis le nom de Dieu, le Père, le Christ, Seigneur Jésus, Jésus-Christ, Jésus, Sauveur, Fils, et puis au total 64 fois le Fils, 42 fois Dieu le Père, et puis 9 fois le Saint-Esprit. Puis ensuite, alors, tous ces mots, 14 fois le mot grâce. Alors, vous pouvez vous-même faire une étude, retrouver les mots, et puis en faire une étude pour vous sur la grâce dans les Colossiens. Qu'est-ce que j'apprends dans les Éphésiens? Qu'est-ce que j'apprends au sujet de la grâce, au sujet de l'amour, au sujet d'aimer, au sujet de ce qu'est l'Église, de ce qu'est la gloire, de ce qu'est la paix, la foi, etc. Et alors, je terminais, que chacun de nous puisse trouver dans l'étude de ces quelques mots de nouvelles pistes de réflexion pour son édification personnelle. Ainsi, la retraite se continuera dans vos cœurs. Eh bien, je m'arrête maintenant en vous disant que maintenant nous voudrions louer le Seigneur. Quelqu'un peut-être aura à cœur un cantique pour introduire ce moment. Et puis après, eh bien, dites au Seigneur en quelques mots ce qui est dans votre cœur, si vous avez une louange, un merci à lui dire, et que tout s'oriente vers le mémorial du Seigneur. Ce qui est sur cette table, ce pain et ce vin, nous rappelle le dernier souper du Seigneur où il a institué ses signes en disant à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne, hein, jusqu'à ce qu'il vienne. Et ce n'est pas un acte mécanique que nous allons faire, mais c'est une communion réelle. Le Seigneur a dit que là où deux ou trois, combien sommes-nous? C'est valable? On est près de 80. Hein? Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là. Alors, est-ce que vous y croyez qu'il est là? Je suis là au milieu. Et l'apôtre Paul nous dit que chaque fois que nous rompons le pain et que nous buvons à la coupe, nous annonçons sa mort. Parce que nous avons compris que s'il n'était pas mort, nous ne serions pas là, nous ne serions pas sauvés. Il a fallu la mort du grain de blé pour que nous ayons part à sa vie. Nous vivons maintenant de sa vie. Et en attendant qu'il vienne pour accomplir notre entière délivrance et réaliser notre bienheureuse espérance, bien, il nous donne de nous souvenir de lui. Dans ce monde qui l'oublie, dans ce monde qui ne pense pas à lui, nous prenons le temps de nous arrêter. Et ce n'est pas moi qui vais vous donner la scène. Nous allons simplement rendre grâce, bien sûr, mais vous viendrez vous-même, si vous le voulez, si le Seigneur vous appelle à le faire, si vous voulez lui témoigner qu'il est votre Seigneur, qu'il est votre Sauveur, vous participerez à ce repas en prenant vous-même le pain et en buvant une gorgée du fruit de la vigne. Mais ce ne sera pas simplement manger un morceau de pain hein, et puis boire une gorgée de vin, non. Mais vous allez en pouvant dire, Seigneur, vraiment, tu as donné ton corps, qui est représenté par ce pain. Et ce pain qui a été rompu, c'est ton corps qui a été brisé pour moi. Et bien maintenant, je fais partie du corps de Christ. N'est-ce pas? Vous avez communion au corps de Christ. Alors, vous ne pouvez pas communier pour vous-même, vous le comprenez bien, indépendamment des autres. Il faut que vous soyez en communion les uns avec les autres. Alors, il ne faut pas que vous ayez de l'aigreur contre quelqu'un, ici, parce qu'il vaudrait mieux vous abstenir.
Mais si vous êtes en règle devant le Seigneur et que vous aimez vos frères, alors ça, ça a un sens. Il y a une réelle communion spirituelle avec le Seigneur et avec nos frères. Ce qu'on appelle la communion verticale avec le Seigneur, mais étant en communion avec le Seigneur vous met en communion avec vos frères. C'est la communion horizontale, n'est-ce pas ? Mais si j'ai quelque chose contre quelqu'un, eh bien, je ne peux pas m'approcher de la table du Seigneur. Mais je m'humilie de cela, je confesse, je m'éprouve moi-même, et puis, alors, je prends le pain. Et je confesse, Seigneur, dans la semaine qui vient, dans la semaine qui s'est ouverte, eh bien, je fais partie de ton corps, et je veux m'en souvenir dans la vie quotidienne. Je suis membre du corps de Christ. Je n'irai pas à la table des démons. La table des démons, c'est la table qui est dans le monde, où va se nourrir les appétits de la chair. Mais nous nous nourrissons de la personne de Christ. Par-delà les éléments, c'est au corps de Christ qui est devenu notre nourriture. Et puis le vin, eh bien, c'est notre communion au sang de Christ. Aussi réellement que le vin va entrer en vous, vous confessez que votre Seigneur, votre Christ, n'est plus extérieur à vous, mais qu'il est intérieur. Il vit en vous. Il est votre Fils. Maintenant, je vous dis, pour être absolument droit, selon l'Église romaine, ceux qui sont catholiques et qui veulent suivre simplement les préceptes de l'Église romaine, non pas selon moi, mais selon les préceptes de l'Église romaine, ils n'ont pas le droit de communier avec des gens comme nous. Pour quelle raison ? Parce que moi, je ne suis pas un prêtre ayant reçu l'imposition des mains d'un évêque. Mais j'espère avoir reçu l'imposition des mains percée. C'est cela. Et qui compte, c'est avoir reçu la consécration du Seigneur, et non pas la consécration d'un homme. Mais enfin, je veux être absolument droit, et je vous dis, selon les principes de l'Église romaine, eh bien, les personnes qui veulent suivre vraiment, strictement, ce que Rome dit, et ils ne devraient pas. Je ne vous dis pas que vous ne devez pas, mais selon Rome, ils ne devraient pas communier parce que, même si les catholiques me reconnaissent, reconnaissent un ministère pour moi, m'appellent un apôtre et tout ce que vous voulez, encore quand je descendais tout à l'heure, on m'a appelé père en descendant, parce que je lisais ma Bible, évidemment. Bonjour père, bon, ça peut faire. Mais la question, c'est qu'il faut connaître son milieu, connaître son Église. Alors, on ne va pas sauter par-dessus tout ce qui peut encore nous séparer, mais quand vraiment nous pensons que Jésus a institué ces signes pour notre unité, pour qu'on puisse manifester qu'en Jésus-Christ, quand on est en Jésus-Christ, on est un seul corps. Nous manifestons l'unité du corps. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est divisé avec cela. Toutes les divisions viennent de ce qu'on dit de la Sainte Cène. Le catholicisme a employé ces mots que je dis barbares, pour employer le terme même d'un dominicain, des mots barbares qui s'appellent transsubstantiation. Luther a employé un autre mot barbare, consubstantiation. Et puis Calvin, ben, il a parlé de présence réelle, et puis Zwingli, il a parlé simplement d'un mémorial. Mais cela nous rappelle, on a voulu définir ce que c'était, puis avec toutes nos définitions, on s'est divisé. Au lieu d'adorer, nous nous approchons et nous adorons. Et le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et voyez-vous, qu'est-ce qu'il a pris pour ces éléments ? Il a pris le pain qui était sur la table. Ce n'était pas quelque chose qui avait été préparé pour autre chose. C'était le pain de la table. Et puis le vin de la coupe, c'était le vin qui circulait dans le repas. Alors, nous revenons à l'Église primitive. Je connais des prêtres qui y reviennent aussi. Et c'est la communion sous les deux espèces. Il y a beaucoup de catholiques qui s'ouvrent de tout cela. Mais ici, nous ne sommes pas pour critiquer les uns les autres. Nous sommes ici pour nous placer devant le Seigneur et être des gens responsables. Vous êtes responsable pour vous-même et vous êtes responsable devant Dieu. Mais il importe que nous, serviteurs de Dieu, nous soyons loyaux à votre égard
et que nous vous disions la vérité au sujet peut-être de votre Église. Ce n'est pas légèrement que l'on prend part au repas du Seigneur. Et ce n'est pas simplement parce que vous avez été baptisé dans telle Église que vous pouvez y prendre. Je connais une Église où on dit que les immergés maintenant s'avancent. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on a été immergé qu'on est dans l'état de prendre part au repas du Seigneur. Il faut être jugé soi-même. C'est dans le jugement de soi-même. Et c'est ça qui compte. Alors, il n'y a pas d'autre préalable. Simplement l'amour du Seigneur. Et ce n'est pas moi qui vous le dis. Vous ne recevrez pas cela de ma main. Vous prendrez vous-même. Et le Seigneur vous donnera sa bénédiction. Parce que nous croyons qu'il y a une bénédiction quand nous communions réellement devant le Seigneur. Mais nous savons que si nous le faisons aussi légèrement ou sans aimer le Seigneur, eh bien, cela aussi peut nous nuire. Il est dit que dans l'Église primitive, il y a des gens qui ont fait cela d'une façon légère et plusieurs sont devenus malades et sont morts. Donc, s'il y a un jugement qui s'opère à la table du Seigneur, il y a aussi une bénédiction que nous pouvons recevoir. Mais dire que rien ne se passe, ce n'est pas vrai. Le Seigneur ne s'est pas donné symboliquement. Il s'est réellement donné. Et alors, c'est là tout le sérieux. Mais nous ne vous jugeons pas, nous vous aimons et nous prions que vous soyez tous dans la présence de Dieu et moi avec vous. Amen.